Giorgio Vigarello est né le 16 juin 1941 à Monaco. Il est, à ma connaissance, le seul agrégé de philosophie, doctoresse lettres, qui soit en même temps titulaire d'un CAPEPS d'éducation physique. Giorgio Vigarello, de 1995 à 2000, donc jusqu'à aujourd'hui, est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. En 86, il était professeur à Paris 5. De 79 à 86, professeur à Paris 8. De 69 à 79, professeur à l'Institut national du sport et de l'ENS. Donc, actuellement professeur à l'Université de Paris 5, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, co-directeur du CETSA, un laboratoire de sociologie du CNRS, président du Conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France. Giorgio Vigarello s'est essentiellement intéressé à l'histoire culturelle à travers l'histoire des représentations du corps. Il est membre de l'Association des chercheurs en histoire culturelle. Il a obtenu en 1997 le prix Scritture d'Acqua, Arts et Sciences de la ville de Parme en Italie. Et en 1998, le prix Malesherbes pour une histoire de la justice. Giorgio Vigarello a publié une série d'ouvrages consacrés au corps, au sport. Rappelons pour mémoire « Le corps redressé, histoire d'un pouvoir pédagogique » en 78. Ça, c'est votre thèse de lettres, peut-être.
Tout à fait.
« Le propre et le sale, l'hygiène du corps depuis le Moyen-Âge au Seuil » en 1985. Une histoire culturelle du sport technique d'hier et d'aujourd'hui chez Robert Laffont en 88. De la sobriété, l'art de prolonger la vie au XVIe siècle aux éditions Milon en Jérôme Millon en 1991. Le sain et le malsain, santé et mieux-être depuis le Moyen-Âge au Seuil en 1993. La violence sexuelle dans l'œil du savant, présentation du livre d'Ambroise Tardieu, Les attentats aux mœurs, chez Jérôme Millon en 1995, Histoire du viol au Seuil en 1998, et enfin Passion sport, histoire d'une culture, aux éditions textuelles en l'an 2000. Je lui laisse la parole.
Merci infiniment. Je dois dire avant de commencer que je me réjouis de me trouver parmi vous et en particulier je me réjouis de l'initiative de ces conférences, initiative qui les amène dans des lieux qui ne sont pas seulement le centre parisien, ce qui prouve, je crois, que le dispositif national bouge quand même. Alors, je voudrais faire quelques préalables avant d'engager directement le sujet dont je veux parler. Ces préalables, c'est que je me permettrai de faire quelques excursions historiques pour bien analyser le thème de ce culte. Qu'est-ce qu'on entend par culte? Je vais en dire un mot. C'est un honneur qu'on rend à une divinité. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de prendre à la lettre ce type de définition et dire que le corps devient d'emblée une sorte de divinité face à laquelle nous nous prosternons. Je crois que c'est une façon beaucoup trop directe d'interpréter le mot culte. Mais en revanche, je pense que le mot culte a un sens, je vais essayer de le montrer, et ce sens, il est plutôt approché, il est plutôt analogique, si vous voulez, ou à la limite presque métaphorique. Il porte sur le fait que, sans doute, aujourd'hui, nous attachons au corps une certaine attention qui, dans une certaine mesure, lui donne une dimension de sacré. C'est un peu comme ça que je vais essayer de développer mon propos. Bien entendu, par corps, il faut absolument s'entendre sur un contenu. C'est un contenu, à mon sens, a priori émietté, beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. C'est pas du tout un espace homogène, l'espace du corps. Il est fait à la fois de muscles, d'apparence, d'expression, d'éléments psychologiques, d'éléments purement matériels, au sens le plus matériel du terme. Et il faudra s'entendre. Donc, culte du corps suppose que nous essayons de cerner un petit peu ce que l'on peut entendre par corps, et surtout la façon dont aujourd'hui, ce terme-là est entendu. Société contemporaine, évidemment, c'est la société la plus récente, mais pour comprendre la société récente, j'y reviens, il est indispensable de faire un petit parcours historique futile, très bref. Donc, mon propos sera d'abord le prolongement de cette introduction en creusant quelques thèmes historiques, et ensuite, j'envisagerai dans trois grands moments ce que j'entends par culte du corps dans nos sociétés, en essayant précisément de dire ce que représente le corps. Alors, je lâche maintenant comme ça trois thèmes qui me paraissent absolument centraux. Je crois que le corps, c'est pour nous à la fois un lieu d'efficacité sur les choses. En même temps, c'est un lieu qui représente une propriété. S'il est atteint, c'est nous, en tant que propriétaires de quelque chose, qui sommes atteints. Et enfin, le corps, c'est aussi, et peut-être plus encore, un lieu d'identité, à savoir le lieu où nous exprimons, de la façon la plus immédiate, la plus visible, et sans doute la plus profonde aujourd'hui, ce que nous sommes. C'est dans ces trois versants que je vais essayer de développer le thème du corps, en disant que finalement, c'est peut-être à travers ces trois versants que l'on peut l'entendre aujourd'hui. Alors, parcours historique, et dans la conclusion, évidemment, je m'interrogerai sur les limites de ce culte, sans doute ces contradictions et à coup sûr ses difficultés. Alors, revenons-en rapidement au thème historique sur lequel je ne m'attarderai pas, mais tout de même, nous avons tous le sentiment spontané aujourd'hui que nous découvrons le corps et que jusqu'à nous, on ne s'y intéressait pas. Lorsque vous prenez des livres dont je ne commenterai pas le contenu ou la pertinence, ce n'est pas le problème, mais lorsque vous prenez des livres qui traitent du corps, très souvent, vous croisez l'idée selon laquelle nous sommes entrés dans une civilisation du corps, ce qui n'est peut-être pas faux, mais ce qui laisse entendre qu'auparavant, il n'y avait pas de civilisation du corps. Ou encore, lorsque vous ouvrez toujours ces mêmes livres, vous avez le sentiment que le corps est devenu un lieu de triomphe, un lieu de réalisation, un lieu d'expansion tout à fait extraordinaire, alors qu'auparavant, ce lieu n'existait pas. Je vous cite un exemple, un livre collectif, ce qui me permettra d'éviter de citer un auteur, un livre collectif chez Flammarion, 1974. Le monde actuel piétine les tabous, glorifie le corps, tant mieux. Pendant des décennies, il fut ignoré, caché, serré, brimé. Et très souvent, aujourd'hui, nous avons ce sentiment spontané. À savoir, auparavant, c'était vraiment le mépris le plus terrible, une période de superstition, une période de mécompréhension, et surtout une période de distance à l'égard du corps. Ce qui me paraît être une illusion rétrospective. Je crois, au contraire, que le corps a toujours été une dimension fondamentale de la personne. Mais la façon dont il était une dimension fondamentale, a sans doute changé. C'est ça qui me paraît très intéressant. Et je voudrais citer quelques exemples, toujours dans ce parcours historique que je veux le plus bref possible. Quelques exemples. Vous ouvrez un livre sur la Renaissance, que trouvez-vous ? Le superbe livre de Delumeau, Jean Delumeau, La civilisation de la Renaissance, entre 1450 et 1600. Le corps, méprisé au Moyen-Âge, s'est trouvé exalté par l'art et l'humanisme de la Renaissance. Donc la civilisation du corps, elle n'a pas commencé il y a quelques petites vingtaines d'années. Autre exemple, la France classique cette fois. On avance, on vient vers nous. La France classique, eh bien, beaucoup de textes, vous savez, s'intéressent beaucoup au corps. Quelqu'un comme Descartes dit, une des sciences fondamentales, c'est la médecine. L'ambition de Descartes, c'est d'essayer de trouver un régime qui le ferait vivre pendant plusieurs centaines d'années. Contrairement à ce que certains disent, en interprétant le thème du dualisme, sur le mode du mépris à l'égard du corps, ce qui me paraît en fait beaucoup plus compliqué. Toujours sur la période classique, dans ce très beau texte central de Perrault, le frère de l'homme de la colonnade du Louvre, eh bien, vous voyez que les modernes, comparativement aux anciens, ont, aux yeux de Perrault, une civilisation du corps, alors que les anciens en auraient aussi une. Et il dit, nous sommes, par rapport aux anciens, des gens qui nous tournons beaucoup mieux, nous sommes beaucoup plus attentifs à nous, nous avons du linge, nous pouvons nous laver, nous ne nous lavons pas avec l'eau. Eux, ils avaient des termes, les anciens. Mais nous avons du linge, ce qui est beaucoup mieux. Nous pouvons nous tenir nets, etc. Il ne tient qu'à nous de faire de grands bains. Mais la propreté de notre linge et l'abondance que nous en avons valent mieux que tous les bains du monde. Nous sommes modernes, nous nous intéressons véritablement au corps. Troisième exemple, nous avançons vers nous, Rousseau. Que dit Rousseau ? Rousseau, c'est une lutte permanente pour s'affranchir, en quelque sorte, d'un certain nombre de contraintes dans lesquelles, entre autres, pas seulement, mais entre autres, le corps serait maintenu. La nature a, pour fortifier le corps et le faire croître, des moyens qu'on ne doit jamais contrarier. Ne contrarions pas la promotion, en quelque sorte, la montée, la vie du corps, d'où les grandes critiques de Rousseau contre le corset, contre le maillot, contre une éducation trop contraignante, etc. N'oublions pas cela. Notre culture, elle est faite de ce passé. Dernier exemple, un des plus récents et qui a été considéré comme très marquant, non pas 68, serait trop facile, je vous donnerais trop de facilité, mais 36. Eh bien, lorsque la femme de Léo Lagrange analyse 36, elle dit « c'était l'an 1 du bonheur ». Autrement dit, la civilisation commençait avec le corps libéré, le corps des vacances, le corps du plaisir de 36. Eh bien, je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'attarder encore une seconde pour essayer de voir dans quelle dynamique nous sommes encore aujourd'hui et en quoi et sur quoi il faut s'interroger pour essayer de dégager ce qui fait notre originalité, malgré la dynamique qui nous porte. Alors, cette dynamique, eh bien, je crois que le plus bel exemple de son existence, c'est d'évoquer très vite, toujours dans ce passage sur l'histoire, d'évoquer très vite l'avènement des loisirs. La société d'aujourd'hui se fonde entre autres, évidemment pas seulement, mais se fonde entre autres sur les loisirs, c'est-à-dire sur une occupation du temps, un intérêt à l'égard du corps pendant ce temps, un plaisir accordé à ce corps. Et je trouve très beau le livre d'Alain Corbin qui s'intitule « L'avènement des loisirs » et qui montre qu'il y a une sorte d'assurance en quelque sorte du corps dans cette remontée. Et l'avènement des loisirs commence pour lui il y a environ un siècle et demi, c'est 1850-1860, avec la création des trains de loisirs, des trains de plaisir qui vous conduisaient sur les lieux de balnéaire, avec l'intérêt pour la montagne, etc., l'intérêt pour le thermalisme, bon, bref, un temps consacré à soi. Donc ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. Et ce qui s'est produit dans cette dynamique me paraît personnellement aboutir à une double exigence dont nous sommes totalement redevables aujourd'hui. La première, c'est un mouvement démocratique qui fait que les sujets se posent davantage qu'ils ne se posaient auparavant le problème de leurs contraintes, de leurs auto-contraintes. Ils s'interrogent davantage sur la façon dont le corps exerce une auto-contrainte sur eux. C'est comme ça, personnellement, que je comprends la façon dont le sport a été considéré comme libératoire à la fin du 19e. C'est comme ça que je comprends la façon dont les vacances ont été comme libératoires. Bref, pour tenir cette phrase très simple, mais qui est très dense, de Marcel Gauchet, l'homme délié de l'assujettissement collectif, c'est-à-dire délié de ce poids collectif qui pesait sur lui sans qu'il ait vraiment d'autonomie dans les périodes anciennes. Donc l'homme délié de l'assujettissement collectif est l'homme qui va devoir se découvrir intérieurement asservi. C'est-à-dire celui qui va commencer à se dire « mais c'est de moi que viennent aussi les contraintes ». Et c'est peut-être de mon corps, et c'est en travaillant mon corps que je vais peut-être les libérer ces contraintes. Cette phrase absolument remarquable de Bergson sur le sport, ce que j'estime surtout dans les sports, 1912, c'est la confiance en soi qu'il procure, je crois, à une renaissance morale française. Là encore, on pourrait discuter très longtemps, ce n'est pas l'objet, mais simplement ici, ce que je vais souligner, c'est le fait que la découverte de contraintes intérieures ont déplacé la position que l'on pouvait avoir à l'égard du corps et ont accru l'exigence de ce que l'on pourrait appeler sa libération. Cette libération, et c'est le deuxième versant que je voudrais évoquer, et ce sera le dernier, le premier c'est l'intériorité, vous voyez, dans la dynamique, l'homme qui se trouve contraint intérieurement, et le deuxième c'est, comme il se libère, eh bien son apparence va avoir une autre importance, son apparence va également travailler sur de la libération. Et une phrase un peu longue, mais qui est tellement importante, que je me permets de la lire, en plus comme elle est imagée, j'espère qu'elle n'est pas trop, grisaille, elle ne fait pas trop gris, elle n'est pas trop sourde, c'est cette phrase de Huck Rebelle dans un roman de 1877 qui s'appelle « Les nuits chaudes du Cap français », mais ce n'est pas ni un roman érotique, ni un roman scandaleux, c'est un roman qui porte sur les pratiques quasi physique, en tout cas les pratiques de vacances de la fin du 19e siècle, et qui dit la chose suivante, dans un passage très concret, très précis: plus que les fêtes du casino, le bain de mer était le triomphe des beautés jeunes et accomplies. Les femmes qui n'étaient pas sûres de leur grâce n'osaient s'y risquer. Et telles qui s'étaient fait remarquer l'hiver précédent par une physionomie expressive se voyaient avec étonnement dédaignées pour des créatures de nom, de figure et de tenue moins noble, mais
d'une solide et harmonieuse charpente, d'une chair riche et claire qui réjouit la main et l'œil. Et on a le sentiment que le corps est découvert, là, vous voyez, il y a un siècle et demi. Donc ne nous illusionnons pas sur le thème d'une culture du corps ou d'un culte du corps qui surgirait brusquement aujourd'hui, sans passé et sans mémoire. En revanche, posons-nous des questions sur qu'est-ce qui peut caractériser ce qui se passe aujourd'hui, à la fois autour de nous et en nous. Alors, je ne m'attarderai pas, parce que je trouve que si je le faisais, ce serait beaucoup trop formel et beaucoup trop artificiel, je ne m'attarderai pas sur une sorte d'analyse séparée de notre société, avant d'arriver ensuite à une analyse de ce qui pourrait avoir, de ce que notre société pourrait avoir comme conséquence sur le corps. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Évidemment, nous pourrions faire un long exposé sur le problème de la consommation aujourd'hui, la société de consommation. Nous pourrions faire un long exposé sur l'individualisme. Également, un long exposé sur les techniques qui changent complètement le rapport au corps, évidemment. Ou encore sur le reflux du religieux qui change aussi beaucoup le rapport au corps. Mais cela, ce serait une interrogation sur notre société. Or, moi, je veux m'interroger sur le culte du corps. Donc je vais intégrer les problèmes que je viens d'évoquer dans la présentation du culte, entre guillemets, en question. Et cette présentation, je la ferai, comme je l'ai dit tout à l'heure, en prenant trois versants qui me paraissent vraiment caractériser ce qu'est notre corps et la façon dont nous le vivons. Je n'en vois pas tellement d'autres, à savoir le fait que c'est un principe d'efficacité, ce qui me permet de saisir le stylo et de le déplacer. Il y a un rapport au monde qui permet de changer le monde avec le corps. Deuxièmement, c'est un principe de propriété. Si je reçois un coup, j'ai le sentiment que c'est mon être en tant que propriétaire d'un être qui est atteint. Et enfin, c'est un principe d'identité. La manière même dont je me meus et dont je vous parle est liée profondément à mon investissement corporel et traduit, en un certain sens, ce que je suis. Alors, principe d'efficacité. Eh bien, je pense que le principe d'efficacité, effectivement, dans les périodes récentes, alors il faudra distinguer, les périodes récentes, c'est à peu près depuis la Deuxième Guerre mondiale, et puis il y a des inflexions, les années 70, les années 80, je les distinguerai. Je ferai l'effort de faire de marquer ces ruptures et ces sous-ruptures. Donc, notre société à nous, quant au principe d'efficacité, a, je crois, opéré des changements extrêmement importants, dont certains ne sont pas toujours vus ou repérés. Le premier, c'est évidemment la santé. Non pas que la santé ait été améliorée, comme ça, si vous voulez. Mais je pense que la santé, à la fois, a profondément transformé ses repères et, en même temps, a profondément transformé ses pratiques, avec plusieurs phénomènes d'extension du territoire de la santé. Extension étonnante. Extension, à la fois, vers le versant psychologique et extension vers le versant physiologique, le plus matérialisé qui soit. Extension du territoire, du gène, en quelque sorte, le plus matériel, au psychisme le plus élaboré. La définition de la santé en 1945 par l'OMS est une définition qui fait rupture avec les définitions anciennes, un état complet de bien-être physique, mental et social, ne se caractérisant pas seulement par l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc il y a l'accentuation d'une dimension psychologique et en même temps l'accentuation d'une thématique qui reste ici présentée sur un mode complètement sourd et sous-jacent, la thématique qui est « il ne suffit pas de se contenter d'un état de silence des organes, mais il faut quelque chose qui se définit mal et qui est de l'ordre de la potentialité accrue. » Vous voyez ? Ça, c'est incontestablement nouveau. Alors, sans doute, c'est caractérisé, accentué par le fait que la société se fait plus individualiste, le sujet se tourne davantage sur lui-même, s'interroge sur lui-même, se questionne sur son être et son état. Exemple, une enquête faite en 1970, répétée en 1980, sur les mots M-A-U-X, dans une population identique, c'est pas évidemment la même, mais statistiquement identique, même âge, même référence sociale, etc., eh bien, le questionnaire porte sur les maladies déclarées. Et sur une population identique, vous avez en 1970 37 000 maladies déclarées et vous avez en 1980 60 000 maladies déclarées. Or, ça nous laisse entendre ici que des choses assez importantes se sont sans doute produites dans les années 70-80, des bascules d'accentuation d'intérêt à l'égard de sa propre personne et à l'égard de sa propre intériorité, si vous voulez, physique et psychologique. À quoi s'ajoute de l'autre côté, eh bien, cette immense entreprise portant sur la carte génétique et sur le fait de pouvoir, à travers la carte génétique, découvrir la probabilité de maladies surgissant sur X ou Y et entrer dans des procédures de prévention qui n'avaient jamais été pensées sous cette forme-là jusqu'ici, bien entendu. Donc, de la carte génétique au psychologique, il y a une extraordinaire extension du territoire de la santé. De la même manière, je crois qu'il y a une extension du territoire du sensible, sur la façon dont nous percevons les choses et dont nous sommes alertés, dont nous sommes inquiets sur les signes d'alerte. Alors c'est montré dans l'enquête que je viens de citer, mais je l'autonomise ce problème parce que je pense que cette alerte est de plus en plus instrumentalisée et elle est instrumentalisée sur un mode qui laisse deviner des formules de plus en plus sophistiquées et complexes que sont par exemple les puces magnétique. Cette imaginaire, qui est encore un peu de l'imaginaire, de Jacques Attali dans Les Lignes d'Horizon, de nombreux instruments d'auto-diagnostic utiliseront bientôt des microprocesseurs. Et nous aurons des renseignements immédiats sur l'état, au fond, de notre corps. Et notre sensibilité sera relayée, du coup, voyez-vous, par des systèmes informatisés. Troisième type d'extension, ce n'est pas seulement le fait que le territoire, le sensible, mais c'est aussi l'exigence d'autocontrôle, l'instrumentation de notre autocontrôle, la façon dont nous faisons nous-mêmes nos propres vérifications et calculs, avec des instrumentations parfaitement nouvelles dans ces dernières années. Je pense par exemple que c'est une attitude, ce thème de l'autocontrôle, c'est une attitude dont le sida est un. dont la relation au sida est un bon exemple. Les malades sont devenus, je crois, ont instauré un état d'esprit nouveau dans la relation malade-médecin. Ils demandent, ils insistent, ils veulent savoir, ils sont presque au bord d'un militantisme, si vous voulez, pour avoir des informations venues du milieu médical. On le voit dans les actions qu'ils font, on le voit dans les livres, on le voit dans les romans que certains peuvent écrire sur la maladie, avec ce sentiment qu'au fond, c'est au malade à se prendre en charge, c'est au malade à demander que des opérations soient faites. Je trouve très beau, pour prendre un exemple parmi d'autres, je trouve très beau le livre de White et Marcy Jones qui s'appelle L'écharde, où les sujets sont l'objet de ce mal incernable qui n'est même pas nommé dans le livre et sur lequel ils s'interrogent en permanence en calculant leur taux, en questionnant, etc. Et je pense que là, il y a vraiment une position nouvelle du malade qui n'existait pas jusque-là. De même, si on déplace la question en la portant sur d'autres problèmes que le sida, on voit que la position du malade est également déplacée. Alors, il se met en position de santé, si vous voulez, est également déplacée dans le cadre du diabète, de l'hémophilie, de l'asthme, de la rhumatologie, où il y a presque une éducation du patient pour qu'il puisse, au fond, s'auto-médicaliser et s'auto-surveiller, ce qui a eu d'ailleurs des conséquences terribles, vous le savez, dans le cadre de l'hémophilie. Mais je crois, là encore, que c'est une position nouvelle, voire ce colloque de l'UNESCO en 1999 sur l'éducation du patient, qui sont des colloques complètement nouveaux, avec des thèmes complètement nouveaux, et qui, je le répète et j'insiste, déplacent la position du patient par rapport à son mal et le mettent dans une position de santé ou de pseudo-santé dont il a lui-même la responsabilité et l'initiative. Il y a aussi, toujours dans ce même secteur de l'extension de l'autocontrôle, tout un appareillage complètement nouveau qui est évoqué dans les magazines de santé, dans les livres sur la santé. Vous avez fait, alors avec des attentes, faites votre autocontrôle, surveillez-vous, et des attentes et des instruments, par exemple le tensiomètre digital pour la tension que vous achetez chez le pharmacien, c'est vous-même qui l'apprenez, ou encore l'urimo pour calculer votre taux d'urée, ou encore évidemment les tests de grossesse qui existent eux depuis plus de temps que les instruments dont je parle, ou un des derniers que je trouve assez amusant, ne serait-ce que parce que je le comprends mal, qui s'appelle l'impédance mètre, que vous pouvez disposer chez vous et qui vous permet de mesurer votre taux de graisse à la maison, sans avoir, ne me demandez pas comment ça marche, mais par contre je peux vous dire que ça existe et que ça accroît la présence de l'autocontrôle. Enfin, je dis présence. Eh bien, dernier point concernant l'extension, c'est une présence de la thématique de la santé. Une manière presque saturant notre temps de questions sur la santé, les magazines. Les magazines étaient deux, au nombre de deux, en 1980, ils sont au nombre de 15 en 1990, ils sont entre 15 et 20 aujourd'hui, c'est difficile de les situer, mais surtout, mais surtout, un magazine de santé mensuel devient le deuxième magazine mensuel de tous les magazines en France en 1990, c'est Santé Magazine, avec 4 500 000 lecteurs, et en l'an 2000, eh bien, c'est Top Santé qui devient le magazine de tête, si vous voulez, Santé Magazine devient le second, et leurs chiffres dépassent 4 500 000 lecteurs. Se trouvent plus loin, Modes et Travaux, Parents, Prima, Marie-Claire. Donc, ce que je veux simplement dire ici, à travers ce type de lecture, c'est la présence forte d'une préoccupation. De même, les enquêtes. Aujourd'hui, quand une enquête porte sur quelles sont vos préoccupations, quelles sont vos questions, c'est d'emblée la recherche médicale ou la santé qui figure en premier lieu, et c'est moins comme on a pu le connaître, je ne sais pas, le travail, la sécurité, etc. 84% de réponses sur le choix santé dans une enquête récente publiée dans Le Monde le 30 novembre 2000, qui date donc d'une semaine. Enfin, donc, mon premier point sur la santé, c'est la santé pilotée. Vous voyez, elle est pilotée par les individus. Mais c'est aussi, une santé consommée, c'est-à-dire une santé qui est totalement intégré dans la mécanique de la consommation des choses et des objets. Et on le voit lorsqu'on lit les magazines, on le voit dans la manière dont ils proposent une consommation des objets santé, du type shopping santé dans certains chapitres de magazines, ou encore produits de santé du mois, bon d'essai pour prendre tel type de produit, articles vous voulant du bien, les saveurs minceurs, etc. etc. Avec à l'arrière-plan de tout cela, et c'est ce qui me paraît, vous en doutez, le plus important, le thème du mieux-être. Autrement dit, consommons, intéressons-nous à ce que nous sommes, et surtout, livrons-nous à des pratiques du mieux-être, non plus le bien-être, mais le mieux-être, qui font les titres des magazines, goûter au plaisir du mieux-être, qui font les titres des affiches, pour mieux être dans son corps et dans sa tête, qui font les titres des livres, mieux-être en 1000 questions, mieux-être, ça veut dire améliorer toujours le stock de ressources et de disponibilité que vous possédez, c'est-à-dire réveiller en quelque sorte vos potentialités, accentuez-les, d'où stage de pleine vitalité, tester votre efficacité pour partager la vitalité de vos enfants, etc., etc., avec le thème de la vitalité et de l'accentuation de la vitalité. Et on retrouve sous une forme à peine différente ce que je disais lorsque j'évoquais la définition de la santé dans la phrase de l'OMS de 45. Ici, on voit très concrètement la santé devenir à la fois un marché et la santé se déplacer pour être ce que vous devez être de mieux avec, au fond, la non-frontière. C'est-à-dire qu'on peut toujours être mieux, voyez-vous. D'où, sans doute, cette sorte de préoccupation interminable, cette préoccupation indéfinie qui a fait dire à certains que la santé devenait une sorte de véritable mythe de perfection irréalisable. Alors, le troisième changement concernant l'efficacité, santé pilotée, santé consommée, le troisième déplacement me paraît être une nouvelle machination, une nouvelle mise en machine des corps et une attente nouvelle, bien sûr, de leur efficacité à travers cette mise en machine. La nouveauté, c'est tout simplement qu'on est passé d'imaginaire énergétique. Avant, dans l'efficacité, le corps, c'était sans doute une donnée mécanique, mais c'était aussi une donnée énergétique, c'était une donnée qui consommait de la chaleur à travers la nourriture et à travers l'oxygène pour la restituer sous forme de travail. C'était ça la véritable efficacité corporelle. Or, bien entendu, à travers, par exemple, la transformation de l'imaginaire technique, ce type d'efficacité a bougé et l'on est passé, je crois, d'une image de l'énergétique à une image de l'informationnel. Et ça, c'est effectivement profondément nouveau. On est passé, comme le dit Baudrillard dans les années 60, du gestuel d'effort au gestuel de contrôle. Mais je crois qu'il faut dire plus aujourd'hui, dans la mesure où la machine pénètre notre corps comme elle ne l'avait jamais fait, avec, alors c'est une vision d'avenir, c'est peut-être une vision mythique, mais avec l'implantation de puces électroniques qui permettent aujourd'hui, pour des paralysés, c'est encore expérimental, mais c'est quand même réellement monté, qui permettent pour des paralysés de commander un certain nombre d'objets. Alors, c'est les recherches de Philip Kennedy à l'Université des Maury d'Atlanta. C'est largement cité dans le livre de Joël de Ronay, L'homme symbiotique, en 1995. C'est par exemple ce chercheur anglais qui peut, grâce à une puce implantée en lui, ouvrir une porte, faire connaître son login d'ordinateur. Le risque, évidemment, c'est que l'on peut influencer, ce système-là nous engage dans des procédures assez complexes où l'on peut influencer l'un ou l'autre selon les implants. Nous sommes dans un monde futuriste, mais nous sommes à l'orée de quelque chose qui est en train de bouger et qui nous fait rentrer dans une sorte d'efficacité corporelle digitalisée, si je peux utiliser ce type d'image, qui, bien sûr, je le reconnais volontiers, est contestable. D'où cette idée soutenue par un certain nombre d'auteurs, selon laquelle, à travers cette procédure, où apparemment la santé a de plus en plus de place, mais où des machinations nouvelles viennent pénétrer le corps, à travers cette procédure, eh bien, peut-être c'est le corps qui disparaît. Et c'est des textes qui ont eu le succès que l'on connaît, l'adieu au corps, la haine, on retrouve à travers cette supplétivité proposée à l'efficacité corporelle, c'est une forme de haine du corps qui permettrait de tout reconstruire, si vous voulez. Je ne vous cache pas que personnellement, je ne partage pas ce sentiment. Je ne le partage pas parce que je crois au contraire que le monde précisément digitalisé, le monde informationnel, nous amène à nous interroger davantage sur nos informations et sur la façon dont nous les commandons. J'en veux pour preuve tous les instruments, la vague d'instruments qui sont portés sur les phénomènes de la commande et de la rétroaction à l'égard de la commande. Alors, entre autres, des instruments de jeu. Des instruments qui consistent à contrôler ses sensations, à les retrouver. Tout l'art de la glisse, voyez-vous, le grand succès de l'art de la glisse, y compris même le roller, le grand succès de l'art de la glisse, c'est là. C'est une forme de travail sur le corps pour qu'il puisse réagir aux informations qui lui sont données. Et ce n'est pas seulement une instrumentalisation extérieure, si vous voulez. Alors, je crois qu'il y a depuis quelques années, là aussi on peut dater, une vingtaine, petite trentaine d'années, une montée progressive de la glisse qui prend la place de pratiques anciennes, de sports anciens qui pénètrent les Jeux Olympiques. La glisse passion, l'article, les quatre pages pardon, du Monde publié le 30 novembre, le globe s'est mis à glisser, l'imagerie de la glisse exalte les territoires intacts. Il y a vraiment le sentiment que quelque chose de nouveau ici se produit, mais qui est profondément relié à la façon dont nous sentons le corps. J'en veux pour preuve, et ce sera mon dernier point concernant cet imaginaire de la rétroaction, j'en veux pour preuve dans toutes ces pratiques qui vous demandent de vous interroger sur votre espace interne. Elle, novembre 2000, début novembre, le numéro d'Elle est consacré à la beauté, avec tout un ensemble de propositions sur visualiser l'intérieur de votre corps, ce qui ne veut pas dire qu'on y parvienne. Mais en tout cas, l'ambition, c'est au fond de s'écouter. Vous voyez ? Donc ce n'est pas forcément le corps qui va disparaître. C'est au contraire, je crois, le corps qui est suraccentué dans les possibilités d'écoute qu'il nous donne. Dernier exemple, puisque vous parliez du sport tout à l'heure, n'oublions pas le sport, les entraîneurs qui disent qu'il faut que vous retrouviez vos sensations. Ou même dans le public, je perds mes sensations, il faut que je les retrouve, etc. N'oublions pas, c'est très important, je pense, ce genre de repère. Alors, cette efficacité, c'est bien entendu, je crois, un rêve d'efficacité, évidemment. Ce n'est pas une efficacité absolument assurée, c'est un rêve d'efficacité. Mais comment s'y interroger ? Comment lui donner du sens aujourd'hui ? Moi, j'ai le sentiment que ce sens, parce que la machination du corps n'est pas nouvelle, mais je crois que ce sens, il s'est vraiment aujourd'hui surdimensionné et en rapport avec le lent effacement des repères, disons, transcendantaux, des repères de la religion, et le fait que les grandes questions se retournent sur nous comme étant vraiment le seul, au fond, je ne dis pas que c'est juste, que c'est vrai, mais comme le seul ou un des seuls lieux d'interrogation. Au fond, on pourrait voir dans cette perspective la modernité comme un christianisme, mais réalisé, un peu comme si le sujet devenait un dieu ayant ou se donnant ou s'imaginant des potentialités extrêmes, d'où ces textes sur pour se surpasser. Mais je crois, par exemple, les pratiques du dopage vont dans ce sens-là. Vous voyez, le fait qu'une conscience de plus en plus accrue du sujet et une confiance de plus en plus accrue dans les potentialités poussent à des pratiques de l'extrême. qui sont les médicaments pour se surpasser, le dopage, l'idée qu'on peut atteindre une santé parfaite, ce livre de Sfès, qui est très beau, Lucien Sfès, la santé parfaite, l'utopie du corps parfait. Je crois que ça se comprend, cela, cette utopie se comprend, avec le reflux d'autres types d'utopie. Alors, principe de propriété, ce sera mon deuxième moment dans cette interrogation sur la société d'aujourd'hui. Principe de propriété, je crois qu'il y a deux grandes considérations à faire. La première, sur laquelle je ne m'attarderai pas, même si elle est importante, je ne m'y attarderai pas parce qu'elle ne renvoie pas nécessairement à un culte du corps, alors que la seconde y renvoie. La première, c'est l'accroissement considérable de la technologie qui nous donne, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, mais autrement, qui nous donne le sentiment que ce dont nous disposons en nous et que nous possédons peut être changé. Et qu'au fond, l'inaliénabilité du corps traditionnel n'est plus de l'inaliénabilité, mais devient au contraire sans doute une vulnérabilité, mais une vulnérabilité transformée en force parce que nous pouvons changer. Vous voyez, nous pouvons au fond changer notre corps comme on changerait une pièce. Alors c'est en rupture avec la pensée classique cela. Il y a la possibilité des greffes, il y a la possibilité d'implants multiples. C'est un nouveau rapport au corps. Et c'est évidemment un rapport au corps qui peut avoir des dangers, qui peut donner le sentiment que comme notre corps est un lieu de propriété mobile, c'est aussi possiblement un lieu de vente ou un lieu d'achat. D'où, là, immédiatement, les questions éthiques qui surgissent dans ce type de propriété, mais qui ne renvoient pas nécessairement à un culte. Ce type de propriété que la loi gère dans l'article 17 du Code civil en disant « La loi assure la dignité du corps humain, elle assure l'inviolabilité et l'indisponibilité du corps humain, elle protège l'intégrité de l'espèce humaine. » Mais pourquoi je pose cette question? Parce que la technique, aujourd'hui, plus que jamais, nous donne le sentiment que nous pouvons précisément violer et changer. Et là, je crois que vraiment, les possibilités d'aujourd'hui viennent buter sur la question éthique, dont le culte du corps ne peut pas évacuer la question de l'éthique. Mais il y a une deuxième dimension de la propriété que je trouve plus importante et plus au centre du culte, si c'est le mot que nous utilisons, c'est ce qui caractérise la frontière de l'individu. Le lieu au-delà duquel tout franchissement devient une atteinte à ce dont il est physiquement, en quelque sorte, propriétaire. Et je crois que dans cette perspective, celle de la frontière, les repères ont profondément bougé ces dernières années. Et je pense que c'est lié, vous vous en doutez bien, je pense que c'est lié à l'accentuation de la place donnée à l'individu en tant qu'individu, ou à la place qu'il se donne, à la place qu'il juge légitime de lui être donnée. Les exemples sont multiples sur ce déplacement de la frontière. Il passe par la thématique de la violence. Ce qui ne veut pas dire que la violence était acceptée auparavant, mais je pense qu'elle est de moins en moins acceptée. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'elle est de moins en moins fréquente. C'est pas ça. Je veux simplement dire que la manière dont nous, les uns et les autres, nous manifestons le refus du franchissement de certaines frontières, cette manière-là, elle est relativement nouvelle et elle est suraccentuée, très légitimement bien entendu. Mais elle est suraccentuée. Exemple, mon corps est à moi. Ce sont des mots qui surgissent avec les mouvements féministes dans les années 60 et qui sont des mots servant un militantisme, évidemment, mille fois légitime, contre les violences maritales, contre les violences sexuelles, bref, contre les violences où des dominateurs viendraient à franchir la frontière corporelle des dominés. Mais cette frontière, elle bouge. Puisque non seulement vous avez dans les années 60 « Mon corps est à moi », mais vous avez aujourd'hui toutes les questions complètement nouvelles sur le harcèlement moral, par exemple, avec une frontière qui est devenue beaucoup plus éloignée de la seule immédiate limite de la peau. On ne peut plus aujourd'hui gêner, perturber l'espace physique et l'espace psychologique de quelqu'un comme on pouvait le faire avant. Le harcèlement moral est l'objet de textes de plus en plus nombreux. Le harcèlement moral, il est, à travers par exemple le harcèlement sexuel, l'objet d'articles du Code. Et vous avez dans le Code des harcèlements qui jusque-là n'existaient pas, dont par exemple le harcèlement téléphonique. Ce qui ne veut pas du tout dire que c'est faux, que c'est aberrant, au contraire. Mais ça veut dire que le thème de la frontière, lui, il s'est indéniablement, dans ces dernières années, profondément accru, et il s'est également, comment vous dire, éloigné de la seule limite immédiate du corps, la bulle de l'individu. La bulle de l'individu s'est appris plus de volume. J'en veux pour preuve la manière dont nous attendons que chacun ait un espace à lui et dont nous calculons l'espace de chacun. Et il y a une façon, par exemple, aujourd'hui, de voir l'espace de la prison autrement qu'il était vu auparavant. L'espace de la prison, dans la tradition de la prison, et la prison, ça ne naît vraiment sous la forme contemporaine, Foucault l'a superbement montré, ça ne naît vraiment qu'au XIXe siècle, la forme de la prison, c'était la privation de liberté, c'était le problème de du mouvement, le problème de la nourriture, c'était une sorte de souffrance, mais on ne l'analysait pas à travers la pénétration de l'espace intime. Or, aujourd'hui, la revendication de la prison passe par là. L'analyse que l'on fait des SDF, par exemple, l'analyse que l'on fait de ce qui était les clochards, elle portait auparavant, deuxième exemple concernant cette bulle, elle portait auparavant sur leur douleur, la difficulté de nourriture, elle portait sur le froid, etc. Or aujourd'hui, je le vois à travers les thèses que je peux lire, par exemple, les quelques thèses récentes sur les SDF, aujourd'hui elles portent sur leur espace. Comment gèrent-ils leur espace à eux? Comment ils l'organisent? Et ça, c'est une nouvelle manière d'envisager la frontière corporelle, et c'est une manière que je trouve personnellement tout à fait originale et importante. Et je terminerai en disant que c'est aussi paradoxal et contradictoire éventuellement ce genre de problème, parce que le fait que vous ayez le sentiment d'avoir le plus en plus de droit à votre espace vous donne très curieusement dans certains cas le sentiment que vous avez le droit d'atteindre pour votre propre satisfaction l'espace de l'autre. Et là, il y aurait une grande réflexion à mener sur la manière dont cet accroissement de l'espace intime n'est pas univoque et peut, dans certains cas, aboutir à des attitudes qui sont finalement des attitudes négatives et qui peuvent être des attitudes de perturbation. Je ne veux pas étendre longuement ma réflexion sur cette question, je veux simplement l'amorcer et je veux simplement montrer que les dynamiques dont je parle ne sont pas des dynamiques qui vont dans un seul sens. Dans certains cas, ce sont des dynamiques qui posent des problèmes, qui créent des questions, qui ne sont pas simples, si vous voulez, à gérer, qui nous interrogent dans la politique quotidienne. Dernier point, dernier versant, le principe d'identité. C'est sans doute le plus visible, c'est apparemment le plus important, mais je crois avoir montré que les principes dont je parlais tout à l'heure, à savoir le principe d'efficacité et le principe de propriété, n'étaient pas secondaires. Principe d'identité, ça veut simplement dire que le corps c'est nous, et que les gestes que je fais, sans doute sont des gestes que je commande, mais ce sont des gestes qui traduisent inévitablement du moi. Et c'est une façon dont je me présente à vous, et c'est une façon qui vous permet de décoder, dans une certaine mesure, ce que je suis. Or là aussi, je crois que les problèmes ont profondément, les repères, les problèmes, les questions, ont profondément changé ces dernières années. Le premier changement, il est lié, là encore, c'est le plus spectaculaire, mais ce n'est pas forcément le plus important en termes de comportement. Il est lié au renouvellement des techniques. C'est que se sont déplacées, premier point, très profondément, les limites de la vie et de la mort. Et se sont déplacées, du coup, les questions sur l'identité de celui qui est là. Est-ce que c'est encore quelqu'un? Est-ce que c'est plus quelqu'un? Toutes les pratiques, par exemple, de la réanimation permettent d'entretenir des individus dont on sait très bien que leur présence, finalement, psychologique, n'est plus là, mais dont on ne sait pas toujours exactement si, dans certains cas, cette présence ne va pas revenir. D'où une sorte de flottement, voyez-vous, dans l'identité, à travers le physique, flottement qui fait que le film Yi Yi le montre très bien récemment, où cette personne dans le coma reste des mois et des mois et puis réémerge. Flottement qui fait donc que un individu absent peut redevenir présent, et que, au fond, nous ne sommes plus toujours à même, même si dans certains cas c'est imparable, nous ne sommes plus toujours à même de pouvoir cerner avec précision la présence ou l'absence de quelqu'un à travers son apparence. Bon. Cela dit, l'expérimentation sur les états végétatifs chroniques, c'est-à-dire ceux où l'on sait très bien que la personne n'est plus là, alors que des fonctionnements vitaux continuent d'exister, cette expérimentation est évidemment condamnée par le comité d'éthique, opposition absolue à toute expérimentation sur ce vivant qui n'est plus vraiment un sujet. Bon. Cela dit, le thème de la limite de la vie et de la mort se complique. C'est pas seulement le moment de la mort, mais c'est aussi le moment de l'apparition de la vie. Toute la thématique de l'embryon. Est-ce qu'à partir de quand un être est présent ou pas, que peut-on faire de cette présence? Est-ce qu'on peut agir sur lui ou pas, etc. Bref, là encore, vous voyez que le culte, mais ce n'est pas vraiment du culte ici. En tout cas, c'est la question sur le corps, ne peut pas ne pas nous confronter à un problème éthique que je trouve, là encore, absolument central, si bien que, en fait, j'évoque des problèmes éthiques, au passage. Mais c'est surtout sur deux points que je trouve que l'identité du corps aujourd'hui a changé, que, plutôt l'identité de notre manifestation à travers le corps a changé, c'est surtout sur deux points. Et ce seront les deux derniers points que j'évoquerai avant de faire une conclusion rapide. Eh bien, le premier, c'est que le corps est devenu plus que jamais un lieu de réalisation de soi. Non pas simplement parce qu'il traduit de l'apparence, mais parce qu'entre soi et soi, il devient un lieu possible de travail, de négociation, d'interrogation. Le corps, plus que jamais, entre autres précisément, parce que les lieux de la transcendance sont quand même profondément tombés, ils se sont profondément effacés, plus que jamais, le corps est le lieu de notre présence, et à la limite le seul lieu de notre présence. D'où des interrogations totalement nouvelles, qui naissent, elles, uniquement avec le XXe siècle, et qui sont du type suivant. Est-ce qu'en m'interrogeant sur mon corps, je ne vais pas finalement apprendre plus de choses sur moi, puisque mon corps me représente complètement? D'où ces propositions qui sont retour au corps, moyen privilégié de communication et d'épanouissement. Vous voyez, retrouvez-vous à travers votre corps. Écoutez, respectez le corps, numéro de psychologie de novembre 2000. J'ai pris volontairement des magazines récents. Écoutez, respecter son corps ainsi que le rendre conforme à sa personnalité devient une nécessité vitale. Réconciliez-vous, retrouvez-vous, voyez-vous, parce que sa présence, c'est au fond uniquement la vôtre. Et c'est en épousant sa présence que vous allez vraiment vous épouser vous-même. Et ça, je pense que c'est profondément nouveau. Dans la mesure où, auparavant, la thématique, elle était plutôt idéomotrice. Vous voyez, les grandes thématiques du 19e, c'est « il y a une idée et on agit ». Et puis, progressivement, avec la montée du psychologique, avec le fait que, là encore, la présence se questionne, eh bien, la thématique devient différente. C'est que le corps peut vous apprendre, le corps peut vous amener, selon les gestes qu'il fait, à constituer de l'espace mental, il peut vous enrichir. Et ça, ce sont des questions totalement nouvelles, d'où, bien sûr, elles aboutissent à un accroissement considérable de son importance et des pratiques qu'il peut provoquer. Donc, c'est un lieu de réalisation de soi, puisque je vais m'interroger sur lui pour mieux, à la limite, me connaître. C'est un lieu de réalisation de soi. Et c'est un lieu de réalisation de soi qui est vraiment, là, je crois, très important, parce que vous avez le sentiment qu'en travaillant sur lui, vous pouvez vous fabriquer, vous pouvez vous transformer, vous pouvez agir sur vous. D'où ces pratiques qui, elles, sont très nouvelles, non pas tellement dans leur contenu, mais dans leur esprit, les bodybuilding, les vertiges de l'intime à travers des pratiques physiques, vous allez retrouver votre intimité, ces affrontements au corps, ou ces idées selon lesquelles on a le corps qu'on mérite, travailler votre corps pour être vraiment vous-même. Si telle partie de votre corps ne vous plaît pas, eh bien, travaillez-le, vous allez être différent, voyez-vous. C'est ça que je voudrais personnellement souligner. En disant peut-être, ce que je n'ai pas dit jusque-là, que le corps représente une sorte d'illimité de travail possible. Et que c'est peut-être cette illimité qui devient, au fond, l'illimité de l'existence. L'illimité traditionnelle, c'était la transcendance, je me répète et je le dis autrement. L'illimité d'aujourd'hui, je crois, c'est de rabattre cette transcendance sur nous-mêmes, c'est-à-dire cet au-delà, cet ailleurs, le rabattre sur nous-mêmes et faire de nous le possible ailleurs. D'où des tentatives extrêmes, des tentatives apparemment complètement folles, mais qui sont précisément des tentatives faites pour retrouver ou trouver son identité. Les raids, les descentes vertigineuses, les triathlons de folie, si vous voulez, les aventures de l'extrême. Moi, je pense que ce sont des signes selon lesquels la vieille expérience de la transcendance s'est tout simplement rabattue sur l'expérience de soi-même, dont le corps, dans laquelle, expérience de soi-même, dans laquelle le corps joue un rôle absolument central. J'ajouterais aussi d'ailleurs des pratiques qui, précisément à cause de cela, sont des pratiques risquées, des pratiques d'affrontement pour mieux se réaliser avec le possible échec, le possible accident. Au fond, aller au bout de soi-même, voilà une des grandes missions d'aujourd'hui, mais aller au bout de soi-même, c'est bien entendu, du coup, risqué. La deuxième et dernière dimension, la première, c'est la réalisation de soi. La deuxième dimension, c'est la vérité de soi. Le corps exprime véritablement soi, l'apparence au cœur, au fond, comme seule vérité. L'apparence comme seule présence, si vous voulez. D'où l'importance décisive de cette apparence aujourd'hui. Ne nous y trompons pas. L'apparence a toujours été importante. Toujours. Ne nous y trompons pas. Y compris au Moyen-Âge. L'apparence a toujours. Mais l'interrogation sur l'apparence du corps, sur ce qu'est véritablement le corps, parce que le corps c'est vous, cette question-là est devenue beaucoup plus forte, beaucoup plus centrale. Alors là, les magazines surabondent de repères concernant l'apparence. J'ai choisi de mincir heureuse, mincir endormant, fitness, cure de corps léger, quel est votre profil physique, les modes qui bougent, là encore on retrouve la consommation, fini par exemple dans le numéro dont j'ai parlé de elle du 6 novembre 2000, fini le fitness, aujourd'hui l'Amérique ne jure que par le wellness, l'art d'exploiter l'exercice physique pour l'épanouissement de l'esprit. Ça paraît complètement dualiste, en fait ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Puisque le physique, pour ce type de phrase, c'est déjà finalement du moi et du psychologique. D'où dans nos sociétés, j'ajouterai encore quelques petits arguments rapides sur le thème de l'apparence, dans nos sociétés qui sont des sociétés du présent, contrairement aux sociétés anciennes qui étaient soit des sociétés pour lesquelles la vérité se trouvait dans le passé, soit des sociétés pour lesquelles la vérité se trouvait dans l'avenir, le progrès, etc. Or, nos sociétés de consommation sont de plus en plus des sociétés du présent. Il faut faire et réaliser maintenant et pas demain. Vous voulez partir en vacances, des affiches devant les banques, partez. Vous rentrez, vous avez un crédit, vous partez. Bon. Donc, les sociétés du présent sont beaucoup plus que jamais des sociétés qui s'accrochent au corps comme signe d'intangibilité et de non-changement. D'où ces travaux qui ne se limitent pas à l'antiride, mais qui sont au contraire des nouvelles armes scientifiques pour rester jeune. Aujourd'hui, des technologies très pointues permettent de faire un vrai diagnostic de jeunesse pour connaître les meilleurs traitements pour soi. Santé Magazine consacre de longs passages à ce genre de problème. Le numéro du Nouvel Obs de novembre également s'intitule « Rester jeune, les secrets de la révolution anti-âge », etc. Et ça, c'est vraiment le signe de l'importance centrale, à mon avis, du présent. Alors, je conclurai. Il me reste 5 minutes pour conclure tout ce que je viens de dire. Je conclurai sur 3 points. Premier point, je pense qu'il y a effectivement culte au sens où, sans doute, un certain nombre de dimensions de notre corps ont acquis une sacralisation nouvelle, ont acquis un point de focalisation incomparable par rapport à ce qui se faisait jusque-là, et un point de focalisation qui sans doute les sacralise. Je crois, toujours dans ce premier point de conclusion, que le corps est devenu, comme jamais, l'expérience de l'illimité, parce que précisément ont disparu d'autres illimités, parce que précisément d'autres ailleurs ont disparu, et que cela, à travers cette disparition, accroît l'importance de ce qui déjà était important, mais qui devient sur-important. C'est cela qui me paraît particulièrement nouveau, et ce sera mon premier point de conclusion. Mon deuxième point de conclusion, c'est qu'incontestablement, le corps se trouve l'objet d'imaginaires, de représentations, qui sont complètement nouvelles, liées au monde de la machine, par exemple. Ce que je disais tout à l'heure sur le thème des sensations, ce que je disais tout à l'heure sur le thème de la disponibilité de soi, sur la maîtrise, avec le renvoi à une sorte de digitalisation, si vous voulez, de votre espace corporel que vous parviendriez à maîtriser comme vous maîtrisez un ordinateur. Je pense que ces images-là sont profondément nouvelles, et ces images-là laissent attendre, finalement, une sorte d'espoir de maîtrise qui n'avait jamais eu cette force jusqu'à nous. Et puis, le troisième point de conclusion, c'est que quand même, cette affaire, elle n'est pas si simple. C'est que cette affaire, elle est porteuse de paradoxes, sinon de contradictions. J'en vois au moins deux, et ce sera, je consacrerai à ces deux contradictions les quelques toutes petites minutes qui me restent. La première, c'est que, apparemment, tout à l'heure vous me le direz, certaines instances publiques, certaines instances collectives ne sont pas si attentives au corps. Le problème de l'affaire du sang, le problème de la vache folle, les problèmes de la pollution des côtes montrent apparemment un certain désintérêt à l'égard du corps. Or, je crois que là réside une profonde contradiction. D'un côté, il y a une terrible montée de l'attention de l'individu à son propre corps, et d'un autre côté, lié sans aucun doute aux possibilités techniques, il y a des possibilités ravageuses, dévastatrices, qui n'existaient pas jusque-là. Si bien que le problème n'est absolument pas simple, et sans doute, le culte du corps joue-t-il son rôle ? Sans doute, permet-il de favoriser ce que l'on appelle le principe de précaution, et qui peut-être triomphera ? Sans doute, permet-il d'être attentif aux pratiques individuelles, comme jamais jusque-là ? Mais, toujours est-il que cette contradiction doit être évoquée et ne peut pas être passée sous silence. Deuxième contradiction, ou paradoxe, l'individu qui est apparemment de plus en plus autonome, qui est apparemment de plus en plus disponible, qui est au fond de plus en plus maître de lui, l'est dans un système où le sens, où les ordres, les interdits sont de moins en moins évidents, où les institutions supportent de moins en moins l'individu. Je dirais, dans un monde où auparavant l'ordre était donné par l'extérieur, les choses étaient sans doute déjà tracées. Dans un monde où l'ordre est donné de l'intérieur, les choses sont moins tracées. Et donc, elles sont, et de ce point de vue, je trouve qu'Alain Ehrenberg l'écrit très bien dans L'individu incertain, donc elles sont plus incertaines, elles sont plus inquiétantes, pour ne pas dire angoissantes. En tout cas, elles sont l'objet d'une quête beaucoup plus complexe qu'on ne peut le croire, parce que qu'on ne peut le penser, parce que les objets ne sont pas donnés. Et vous êtes contraint de chercher toujours la santé indéfinie, mieux-être. Vous êtes contraint de faire toujours davantage. Et je crois que c'est ça aussi qui est relativement nouveau, je l'ai dit, mais je tiens à le souligner dans cette conclusion, si bien que cette phrase du Nouvel Observateur du 9 novembre 2000, « Le nouveau rêve, donner à son corps l'âge qu'on a dans sa tête », cette phrase ne va pas sans imaginaire et sans illusion, nous sommes bien d'accord, mais ne va pas sans inquiétude et ne va pas sans difficulté. J'en aurai terminé et je crois que j'ai respecté mes 50 minutes.
Merci beaucoup, Jacques Garnier.
Oui, excusez-moi de vous déranger, c'était pour savoir si justement, quand vous parliez de nouveau... de contrôle, si l'être humain, justement, aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, a la force à arriver à un certain point, justement, à cette image du corps, n'arrive-t-il pas à une perte de contrôle totale face à son corps et à un rapport complètement à le mettre en péril ?
Oui, votre question me paraît effectivement tout à fait justifiée. Je disais tout à l'heure qu'il met en péril, je l'ai évoqué à d'autres reprises, il met en péril sur plusieurs points. Il met en péril dans la mesure où la réalisation de soi, je veux aller vite et du coup je bafoue. Il le met en péril dans la mesure où la réalisation de soi est une réalisation profondément exigeante et qui n'est pas sans que le sujet soit amené à se trouver dans des situations de risque, voire par exemple les nouveaux jeux, etc. Bien. Il y a une autre dimension aussi où il le met en péril, c'est que le sentiment de la maîtrise a son envers. Le sentiment, au sens immédiat et direct du terme, le sentiment de la maîtrise, c'est par exemple celui qui vous amène à penser qu'en consommant un certain nombre de médicaments X ou Y, vous allez à la fois améliorer et contrôler votre système physiologique. On voit bien l'exemple du dopage, de ce point de vue, me paraît un exemple d'école, si vous voulez. Je trouve qu'il faudrait réfléchir vraiment sur le dopage, pas seulement en termes juridiques, même si en termes juridiques, c'est effectivement très important. Mais le dopage est un exemple d'école, puisque le dopage est fait pour accroître son contrôle et sa potentialité, mais évidemment, avec la croyance que l'individu n'est pas menacé. Les gens, attention, ne vous y trompons pas, les gens qui se dopent, ils ne veulent pas véritablement avoir conscience que c'est dangereux. Regardez le procès Fastina. Au procès Fastina, les coureurs disent « mais nous étions protégés par un médecin ». Voyez-vous ? Donc ne prenons pas le thème du dopage au premier degré. Je crois que sa complication fait que ceux qui s'y lancent croient qu'ils peuvent maîtriser. Mais évidemment, ils ne peuvent pas. Et là, votre question, entraîne, à mon avis, ce type de réponse, qui était d'ailleurs à mon sens sous-entendu dans la question. Donc on voit comment ce sentiment permanent de maîtrise fonctionne, côtoie, ce qui ne peut pas ne pas être le risque et le danger.
Oui, mais c'est le jeu. Justement, est-ce que ça ne crée pas une augmentation de nouvelles pathologies ?
Ah ben, concernant les accidents, etc., ça me paraît qu'on, faire l'objet de nouvelles pathologies. Mais ne me faites pas dire non plus que du coup, tout le culte du corps est à rejeter. Vous voyez, c'est vraiment un problème compliqué dont il faut voir à la fois l'aspect véritablement positif d'affranchissement de soi et en même temps dont il faut voir les limites et les risques. C'est plutôt comme ça que je dirais. Je veux faire une conclusion nuancée, je ne veux pas faire une conclusion univoque.
D'accord, merci.
Je voudrais vous poser une question et faire état d'une réflexion. La question, c'est ne pensez-vous pas que dans les 10 années à venir, les 10 années à venir seront la décennie des centres de remise en forme ou sur les lieux de travail, comme la décennie précédente a été celle des restaurants d'entreprise ou celle des crèches. On voit l'exemple avec les Canadiens et les Australiens. Il y a aussi quelques exemples très rares en France, IBM ou La Redoute, qui ont pour leur personnel sur place, qui offrent la possibilité justement de développer ce corps. C'était ma question. Et une deuxième réflexion au sujet de l'espace, de la bulle dont vous faites état très justement. Comment se fait-il alors qu'en matière de logement, on a été dans le sens inverse? Tous les logements du début du siècle présentaient des volumes plus importants et étaient plus dans l'ensemble, avaient une superficie plus grande. Or, on les a de plus en plus minimisés, rétrécis, ce qui donne des troubles au niveau de l'agressivité et autres que vous connaissez bien.
Oui, en fait, il y a deux questions. Il y a deux questions. Alors, sur la première, vous savez, moi, je suis pas très, comment vous dire, très compétent sur la prospective. Mais en tout cas, votre question me paraît tout à fait juste. Je crois qu'effectivement, les espaces réservés au sujet et à ce que l'on pourrait appeler sa reconstitution, ces espaces-là seront à coup sûr de plus en plus nombreux. Ces espaces, je crois, enfin, en tout cas, la dynamique actuelle tente à le montrer. Ces espaces où, au fond, chacun peut se retrouver. Mais là encore, c'est très complexe parce que vous voyez comment il est très difficile, par exemple, dans les cafés, de faire une distinction entre un espace fumeur et un espace non-fumeur, y compris dans les lieux de travail, d'ailleurs. Vous voyez aussi combien il est difficile, avec les nouvelles techniques, de faire en sorte que un espace privé soit respecté. Je pense au téléphone portable. C'est à la fois un accroissement considérable dans le système de mise en relation, et ce serait complètement ridicule que je critique le téléphone portable. Ce serait absurde, c'est pas le problème. Mais le téléphone portable, en même temps, recompose la question de l'intimité. Vous voyez ? Alors, pour en venir à votre question sur les logements, je pense que c'est effectivement une question vraiment très importante. Mais je n'ai pas la même interprétation que vous. Je crois que c'est une question très importante. Je n'ai pas la même interprétation que vous parce que ce que montrent les logements nouveaux, c'est effectivement la tendance que vous évoquez. À savoir, en gros, le cubage, lui, a disparu. Les hauts plafonds sont maintenant utilisés pour faire des mezzanines. Ça, c'est incontestable. Mais en même temps, l'espace de chacun, lui, a été l'objet d'une précaution plus importante. Mais vous savez, c'est une affaire qui est, je dirais, parallèle à la transformation de la société occidentale. Les châteaux médiévaux, alors que l'argent ne manquait pas aux seigneurs, les châteaux médiévaux étaient des lieux où l'espace privé était quasi inexistant. Et pourtant, Dieu sait si les pièces pouvaient être très grandes, bon, mais on ne séparait pas ou on séparait très peu. Et puis, insensiblement, des séparations se sont effectuées avec la période moderne, mais insensiblement. Le château moderne, je veux dire le château du XVIIe, comprend une salle d'apparat et pas nécessairement une salle de retrait pour le seigneur, par exemple. Et il y a une grande recomposition dans les hôtels de la noblesse au XVIIIe, où effectivement, les appartements se mettent à se privatiser, se mettent vers l'arrière. Vous avez des salles d'apparat et à l'arrière, les salles privées qui vont se diversifier avec salle de lecture, salle de buanderie, salle de jeu, etc. Vous voyez ? Donc, la dynamique de la privatisation, c'est une dynamique très ancienne et je pense qu'elle a joué, bien entendu, au XXe siècle, mais elle a joué sur un mode qui est effectivement compliqué. L'espace, c'est quelque chose de précieux et de coûteux et donc il a été pensé avec des procédures d'économie, mais des procédures d'économie qui ont tout de même favorisé l'accroissement des espaces intimes. Regardez comment, par exemple, dans les familles, à partir d'une certaine date du XXe siècle et pas avant, il est devenu impensable que les chambres soient partagées, que les enfants, à partir d'un certain âge, puissent avoir le même lit, etc. Vous voyez, là, je crois qu'il y a vraiment un mouvement très profond qui s'est effectué dans un espace très large de la population au XXe siècle.
Dans ce propos, je voudrais savoir quelle place on laisse aux gens qui ont des handicaps et qui ont des problèmes, on va dire, économiques et financiers. Parce que dans cette course dans l'illimité, je pense qu'il y a plusieurs vitesses. Nous sommes dans une société riche, quand même, relativement. Bon, vous avez évoqué tout à l'heure l'espace des SDF, mais bon, vous avez évoqué aussi beaucoup de journaux, Psychologie, Elle, Nouvelle Obs, etc. Et ça semble être vraiment le point fondamental de la société actuelle, quelles que soient les personnes, leur âge, leur milieu et tout ça. Et là, je crois qu'il y a un problème. Monsieur a parlé des 10 années à venir où dans les entreprises, on verrait peut-être des lieux de sport ou de remise en forme, etc. Il faut savoir que ça existe déjà, d'ailleurs. Dans certaines entreprises, pour certains cadres, en même temps qu'ils travaillent aux Champs-Élysées, on leur paye l'abonnement, je sais pas, à Fitness Center, etc., parce qu'il y a le problème du look vis-à-vis de la clientèle pour garder sa confiance. Enfin, je pense qu'il y a un problème politique et économique au-delà même du problème éthique, du problème de la permanence de l'individu. Enfin, je sais pas, je crois qu'il y a peut-être plein de problèmes lourds derrière tout cela.
Non, je crois que vous soulevez effectivement une question très importante. Moi, j'ai le sentiment que si on parle cette fois en termes vraiment social et plus marginalement en termes économiques, il s'est produit un double phénomène dans nos sociétés récemment. Surtout dans la deuxième moitié du XXe, il s'est produit un double phénomène. Le premier, c'est une sorte d'uniformisation très importante d'un nombre très important de groupes sociaux et de personnes. Et le deuxième, c'est que malgré cette uniformisation, se sont accrues certaines fractures sociales. Autrement dit, vous avez une société relativement massifiée dans ce que l'on pourrait appeler l'ambition du mieux-être, et en même temps, vous avez une fracture qui rejette dans des marges un certain nombre d'individus, dont sans doute les individus handicapés font à leur manière partie. C'est un peu, pour paraphraser, si vous voulez, c'est un peu la misère du monde de Bourdieu. Cela dit, cette remarque faite, et également la prise en compte de l'importance de votre question, faite aussi, cela dit, je crois qu'il faut replacer également cette question dans le temps. Et il faut voir que jamais comme aujourd'hui, alors je ne dis pas que les choses vont bien, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mon propos n'est pas optimiste, si vous voulez, ce n'est pas cela que je veux dire. Mais je voudrais resituer quand même la question dans le temps. Jamais comme aujourd'hui, le handicap n'a été médicalisé, ce qui n'est pas forcément aussi positif, mais jamais il n'a été comme aujourd'hui médicalisé. Il était renvoyé auparavant dans l'espace familial ou dans une sorte de no man's land relativement peu apparent et qui le dissimulait. Jamais comme aujourd'hui il n'a été médicalisé, jamais comme aujourd'hui il n'a été mis au devant des questions à la fois sociales et je dirais politiques. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, que les choses sont acquises et que les handicapés sont intégrés dans notre univers. Ça ne veut absolument pas dire ça. Mais ça veut dire que, contrairement aux périodes précédentes, une prise de conscience, je crois, s'est effectuée. Les obstacles demeurent, on les connaît bien. Ce sont des obstacles à la fois culturels, la difficulté d'accepter finalement l'autre dans sa différence et dans la manière provocante dont il nous renvoie à notre propre existence. Donc c'est un problème culturel et c'est évidemment, vous l'avez très bien dit, un problème économique. Un problème économique à la fois dans la gestion de l'espace, dans la gestion du temps, dans la création d'un personnel spécialisé, dans la création d'un personnel rééducateur, etc. Donc c'est un problème considérable. Mais je prends un signe, pour revenir au problème que nous évoquions, je prends un signe très simple. L'existence de jeux pour les handicapés. Alors, par exemple, on peut dire, mais enfin, c'est quand même scandaleux. Pourquoi créer des jeux à part, voyez-vous? Pourquoi les parquer, en quelque sorte? C'est scandaleux. Et en même temps, Coubertin n'y avait jamais pensé. Donc, c'est aussi comme ça qu'il faut arriver à prendre en compte cette question, qui me paraît une question vraiment en grande évolution aujourd'hui.
Monsieur là-haut, et puis ensuite, monsieur ici.
Bien. On entend, oui. Alors, vous parlez lors de votre conclusion de contradiction. Je ne pense pas qu'on puisse parler de contradiction. Il me semble que l'on a une approche actuellement du corps qui se fait à travers le prisme de l'économie. C'est-à-dire que l'on s'intéresse au corps avec pour l'objectif de développer les potentialités de l'individu. C'est-à-dire que l'on envisage l'individu pour développer la productivité et la rentabilité des entreprises. Ce qui expliquerait d'une certaine façon, que certaines institutions ne soient pas si attentives à l'intérêt du corps.
Écoutez, je pense qu'on peut effectivement dire comme vous dites, mais en même temps, moi, je ne me contenterai pas de dire ça. Parce que, bien entendu, dans des sociétés qui visent l'efficacité, chaque individu doit être repris dans le système d'efficacité. Mais moi, je suis très sensible à une vraie contradiction. À une vraie contradiction. Et que nos sociétés doivent affronter. Qui est faite de deux versants opposés. Premier versant, nous ne pouvons réussir l'être ensemble, nous ne pouvons le réussir que s'il y a du travail, de la production, ce qui veut donc dire, je reviens à ce que vous avez dit, et je l'épouse parfaitement, ce qui veut donc dire efficacité, interdit, exigence et en quelque sorte ascétisme. Et puis, d'un autre côté, des sociétés comme les nôtres, qui sont, comme je le disais tout à l'heure en commençant, des sociétés qui fabriquent du temps en dehors du travail, qui sont des sociétés qui, en se démocratisant, donnent de nouvelles places à l'individu, sont aussi des sociétés qui amènent, volens nolens, volontairement, involontairement, qui amènent les individus à basculer du côté de quelque chose que j'appellerais l'hédonisme. C'est-à-dire la musique, le plaisir, les vacances, le temps pour soi et pour personne d'autre. Eh bien, cela, ces deux dimensions, me paraissent parfaitement présentes dans notre univers, ce qui en donne à la fois sa richesse, mais ce qui en donne aussi un certain nombre de ses paradoxes.
Monsieur.
Faut-il poser des questions, même si on les trouve un peu farfelues? Je pense que oui. Je suis venu au micro.
Je le pense aussi.
Oui, mais je ne pense pas. J'ai préparé avant de venir, j'ai préparé mon petit, je ne sais pas comment je peux appeler ça, mon petit résumé. Le culte du corps. Donc. Concernant le sport, celui-ci doit être bien conçu, c'est-à-dire le sport au service de l'homme. Mais non l'homme au service du sport. La compétition, le forcing sont à rejeter. Quel avantage aussi d'avoir un corps athlétique, de ressembler à Monsieur Monde, à Monsieur Spartacus, si cela nous fait perdre des années de vie. Bon, je m'excuse, je vais partir un petit peu plus loin. Cependant, ce qui me turlupine, c'est qu'après tous nos efforts pour retarder la décrépitude et la sénilité finale, nous sommes démunis. Faut-il alors se tourner vers d'autres valeurs que le culte du corps? Moi-même, j'ai gagné une voiture dans un concours. La voiture est-elle un progrès? Nous voyons le chaos des voitures, nous voyons la pollution des voitures, et je disais aux gens, savez-vous que vous avez, combien de cœurs avez-vous? Vous avez 4 cœurs. Nous avons la grosse pompe, nous avons les petites. Et derrière ma voiture, j'avais marqué, entre autres, deux slogans, l'homme marchait, grimpait, n'avait jamais de maladie des vertèbres, mais également, l'homme marchait, tu as mis tes pompes, c'est une petite pompe, comme en argot, auxiliaire des autres. Alors, faut-il voir le fric dans tout ça? Le progrès, j'ai l'impression, Je m'excuse, le micro, moi je me bats toujours avec les micros, vous savez. Tous les bienfaits que nous avons d'un côté... Ben non, ce n'est pas ça, attendez. Hein. Je vois beaucoup de mal dans le progrès, paradoxe. Nous avons avancé, mais nous avons aussi bien reculé. Il y a tant d'exemples. Voilà. Alors, faut-il voir le culte du corps? Vivons-nous plus longtemps qu'avant? Si nous demandons aux médecins, faut-il jeûner? Diront non. Aux pharmaciens également. J'ai fait moi-même, je suis allé en Crète. Il marchait beaucoup en Crète. Qu'est-ce qu'on fait chez nous? Voilà. C'est quelques petites questions pertinentes, mais il y en a tant à poser, vous savez, que je m'excuse. Mais j'ai quand même, je me suis levé parce qu'autrement, je ne serais pas venu du tout.
Je serai le dernier à nier le fait que vos questions soient pertinentes. Écoutez, je crois avoir montré quand même que les dynamiques que j'ai mises en évidence n'étaient pas nécessairement des dynamiques parfaitement homogènes, parfaitement... je ne sais pas comment dire, glorieuse, et que je ne les ai pas présentées comme étant des dynamiques auxquelles j'adhérais. Moi, j'ai pris une position ici qui est celle, je crois, qu'il faut prendre dans ce type de situation, qui est une position de sciences humaines. C'est-à-dire, je ne fais pas de la philo, je ne suis pas venu pour faire de la philo. Je suis venu ici pour essayer de dire comment se caractérise ce qui me paraît être un culte du corps aujourd'hui. Mais je suis aussi venu pour dire comment se caractérise ce qui peut être quelque chose qui est de l'ordre de ces paradoxes, voire de ces contradictions, ce que j'ai dit. Donc, mais par contre, ne me demandez pas de réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ce n'est pas vraiment mon rôle, vous voyez. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment pourrait-on changer le monde, etc. Ça me paraît relever d'une perspective qui porte sur la réflexion philosophique, la réflexion politique. Personnellement, je me limite et je trouve que c'est déjà pas mal. À la réflexion de type sociologique.
Monsieur, et puis ensuite, monsieur, pour une dernière question, peut-être.
Est-ce qu'il n'y a pas dans le culte du corps actuellement une espèce de réaction contre les excès de la société de consommation qui aboutit de façon caricaturale aux obèses américains et qui, par réaction, va passer par le fat burning des marathoniens et jusqu'à l'anorexie chez les jeunes?
Je trouve que vous soulevez une question qui est très importante et jusqu'à une certaine mesure, je serai d'accord avec vous. Et en même temps, je vais dire pourquoi je ne suis pas complètement... Et puis après, je reviendrai sur votre question. Je vais dire pourquoi je ne suis pas complètement d'accord, parce que je pense que c'est précisément ce qui caractérise au cœur nos sociétés. Et j'insiste, ne m'en veuillez pas d'y revenir, c'est-à-dire la perte de transcendance. La perte d'ailleurs et la perte, je dirais, de projets autres que le seul espace de notre intimité, c'est cela qui nous renvoie à nous affronter finalement à nous-mêmes avec les espoirs psychologiques que cela comporte, mais aussi les risques que cela comporte. Alors, en revanche, effectivement, où je vous rejoindrai, c'est qu'il existe dans nos sociétés des sous-cultures qui refusent le processus consommatoire et qui donnent de façon originale une certaine place au corps, qui refusent aussi, par exemple, le processus compétitif. Moi, je pense qu'on pourrait classer dans ces sous-cultures un certain nombre de surfeurs, pour revenir au corps, un certain nombre de surfeurs des grands horizons atlantiques et pacifiques. On pourrait classer dans ce type d'attitude les grands descendeurs des neiges immaculées, et qui, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ces problèmes, je trouve assez intéressant, qui refusent de rentrer dans le système à la fois de consommation et de compétition, et qui disent, nous, au fond, nous voulons nous retrouver nous-mêmes. Mais ce qui est curieux, et du coup totalement passionnant, c'est que la manière dont ils veulent se retrouver épouse totalement le privilège donné au corps.
Monsieur.
Oui, bonjour. Voilà, je voudrais poser une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de santé et vous en êtes venu à parler du sida. Donc, à 4 jours de la journée mondiale de lutte contre le sida, on a remarqué qu'il y avait une augmentation énorme chez les hétérosexuels et un nouveau mode de fonctionnement de relations sexuelles chez les homosexuels qui est le relapse. Oui. Et je voudrais savoir où est donc la... Bah, par rapport à ce que vous avez dit, vous avez dit qu'il y avait, que les, comment, les séropositifs s'occupaient beaucoup plus d'eux.
Oui.
Et enfin, on peut voir que ce n'est pas vraiment réel.
Bah, on peut voir qu'il y a effectivement, vous avez tout à fait raison, on peut voir qu'il y a des ratés, des balbutiements, etc. Alors comment commenter, comment essayer de mettre en phase un peu ces questions nouvelles qui datent de ces derniers mois, enfin qui sont relevées depuis ces derniers mois. Je crois que dans une épidémie, il y a toujours à partir d'un certain seuil, d'un certain moment, surtout dans des sociétés qui sont des sociétés médiatiques où l'information joue un rôle central et doit toujours se renouveler, il y a donc dans ces épidémies médiatisées, alors disons les choses comme ça, un moment où la vigilance se relâche. Ce moment de vigilance relâchée est d'autant plus porté, il est d'autant plus présent que par ailleurs, la maladie perd, du moins dans les sociétés occidentales, je ne parle pas bien sûr des sociétés en voie de développement, que la maladie perd, du moins dans les sociétés occidentales, le côté absolument implacable et horrible qu'elle pouvait avoir. Puisque vous connaissez les trithérapies, etc. C'est terrible de subir une trithérapie, mais vous pouvez prolonger beaucoup plus que cela ne se faisait auparavant. Donc la première explication que je donnerai, c'est celle précisément d'un certain relâchement de la vigilance. Et puis, je crois qu'il y a une deuxième explication que l'on ne peut pas complètement ignorer, que l'on ne peut pas éviter. Et cette deuxième explication, elle renverrait précisément à la nécessité dans nos univers, pour certains, pas pour tous, mais à la nécessité dans nos univers de côtoyer le risque, d'aller à la limite. Voyez, et je pense que dans le relapse, qui est un phénomène tragique dans la maladie du sida, qui est un épisode, si vous voulez, tragique dans la contamination du sida, je crois que dans ce relapse, il y a ces deux dimensions possibles.
J'avais d'abord une remarque un peu additive par rapport à une question qui s'est trouvée déjà posée. Vous avez conclu sur les difficultés et les paradoxes en signalant le manque d'attention de certaines instances publiques et collectives au corps, mais j'ai remarqué que vous aviez donné trois exemples qui sont des exemples pris dans le versant environnemental de notre vie sociale et non pas du cœur même du système productif. La question que je vous poserai, elle est la suivante. Est-ce que dans l'attention que les sciences humaines aujourd'hui portent à la question du corps et à la modification de ses usages, il n'y a pas une polarité excessive qui est donnée à ce versant société civile au sens large et au contraire une relative mise en invisibilité de phénomènes qui sont internes au système productif? Le monde que vous avez cité sur le premier versant a donné au même mois de novembre des indications tout à fait alarmantes sur la souffrance des corps de l'intérieur du système productif, soumis à la flexibilité, la réduction des pauses, l'intensification du travail dans les procédures actuelles. Bon, je versais ça au dossier parce que je trouve que nos sciences humaines ont été plus attentives à la question des corps à l'intérieur des grandes institutions, y compris des institutions de travail dans d'autres temps. La deuxième question, c'est véritablement une question. Pierre Sorlin...
Oui, mais ça n'empêchera pas de répondre à la première.
Non, tout à fait, j'y compte bien. Pierre Sorlin, qui est un des pionniers de la sociologie du cinéma en France, est un petit peu injustement oublié, à mon avis, actuellement, rappelait dans une conférence récente sur le rapport entre cinéma et histoire des loisirs,
oui,
de façon tout à fait judicieuse, que le cinéma qui avait accompagné les loisirs de la société industrielle moderne avait été d'une certaine façon, c'était une référence à Foucault, une mise en ordre des corps. Et il se posait la question de savoir comment il avait été possible que la société accepte une telle mise en ordre des corps dans un lieu qui était un lieu fortement marqué par la dimension du loisir et du loisir moderne. La question que je me pose, que je vous pose d'une certaine façon, puisque vous êtes historien aussi du loisir et de la culture, c'est est-ce que nous sommes sûrs d'en avoir complètement fini avec l'idée d'un lien entre le loisir et la mise en ordre des corps, alors que vous nous avez expliqué à juste titre que nombreuses observations montrent que le loisir va plutôt vers un épanouissement individualisé des corps.
Alors écoutez, vous posez deux questions qui sont vraiment très importantes. Je vais essayer d'y répondre dans un temps bien sûr limité, mais en tout cas je vais essayer de répondre aux deux. Je ne suis pas sûr de partager, même si je comprends bien la manière dont vous posez la première, je ne suis pas sûr de partager vraiment la façon dont vous posez la question. Parce que moi, j'ai le sentiment que les sciences humaines se sont depuis longtemps intéressés au thème du travail. Et que vous avez de grands noms des sciences humaines qui ont posé le problème du travail et la manière dont les corps étaient gérés précisément dans le travail. Je pense par exemple le premier grand sociologue, l'inventeur à la limite de la sociologie française, Durkheim, qui écrit un livre sur le travail. Mais pas seulement, Friedman renouvelle complètement la réflexion sur le travail dans les années 50, c'est un des premiers à analyser le fonctionnement très précis de l'émiettement du travail sur les lieux, des ateliers, etc. Donc il y a, je crois, une sociologie du travail vraiment importante en France, mais qui a changé. Qui a changé. Et c'est ça qui devient intéressant. Christophe Dejour, par exemple, qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit la souffrance au travail. Parce que les objets qui sont mis en évidence et qui sont interrogés ne sont plus exactement les mêmes parce que, moi j'ai le sentiment, évidemment, ce n'est pas une preuve absolue, mais j'ai le sentiment que le fonctionnement du travail lui-même a changé. Quand vous dites « il est devenu beaucoup plus pénible », je crois qu'il faut être très attentif à ce type de pénibilité. Parce que ce n'est plus le même mode de pénibilité que celui qui existait auparavant. C'était auparavant une pénibilité physique, si vous voulez. Ça devient beaucoup plus qu'auparavant une pénibilité psychologique. Alors, quant à l'affaire des pauses, quant à l'affaire des toilettes, etc., je m'excuse, mais ce sont, à mon sens, je ne suis pas un sociologue du travail, mais ce sont assez largement, je ne veux pas faire hurler notre assistance, mais assez largement des problèmes qui ne sont pas au cœur, si vous voulez. Parce qu'on voit très bien que l'entreprise, aujourd'hui, gère beaucoup plus son personnel sur le mode de la séduction que sur le mode de la brimade. Et alors, la brimade peut être morale, c'est-à-dire qu'elle peut pas être, elle peut ne pas, harcèlement moral, elle peut ne pas être visible. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Mais elle n'est plus construite sur le mode de la brimade physique, de la fatigue évidente, du respect absolu de la place, etc. Vous voyez, je crois qu'il y a un assouplissement évident de l'espace et du temps dans cette affaire. Ce qui n'enlève rien au problème de la souffrance, mais qui déplace du coup la souffrance doublement, d'une part parce que ce n'est plus la même, et d'autre part parce que l'alerte à l'égard de la souffrance a changé. C'est pas par hasard du tout que surgissent des textes comme ceux de Christophe Dejour. C'est bien parce qu'on voit autrement aujourd'hui, on a une sensibilité différente, on a une frontière différente qui fait que le mode de harcèlement est vécu autrement, voyez-vous. Donc à la fois le harcèlement s'est déplacé et en même temps il est vécu autrement. Et je crois que de ce point de vue, écoutez, franchement, la situation de travail aujourd'hui, c'est plus le travail de la fabrique du 19e. Ça, vraiment, je crois que c'est plus comparable. Même si c'est pas marrant. Ne me faites pas dire que les Champs-Élysées ont enfin surgi dans chaque atelier de travail. Ne me faites pas dire ça, bien entendu. Mais soyons conscients de ce qui change. Et essayons bien de l'objectiver. Et ne mélangeons pas les temps. Et je veux dire les temps d'hier et d'aujourd'hui, ne les mélangeons pas, ne mélangeons pas le avant et le maintenant. Alors quant au cinéma et quant à la mise en ordre des corps, moi je crois qu'il y a encore, il y a effectivement une mise en ordre. Je crois qu'il y a encore une mise en ordre et que vous avez aujourd'hui des loisirs qui, sans être des loisirs militarisés, bien entendu, restent des loisirs très normés et avec une mise en ordre finalement du collectif. Voyages organisés, la façon dont certains géos fonctionnent au club méditerranéen, etc. Simplement, cette mise en ordre... De toute façon, il y a toujours mise en ordre, y compris lorsque vous croyez que vous êtes le premier à être à l'origine de la norme. Il y a toujours mise en ordre. Mais je reviens à ma phrase. Simplement, la mise en ordre collective n'est plus la même que celle qui existait auparavant. La mise en ordre collective du loisir, auparavant, vous savez, c'était par exemple, on va sur la plage et puis on fait la leçon de gymnastique avec les mouvements absolument militarisés, normés, chronométrés. Aujourd'hui, vous allez sur une plage et vous trouvez, je ne sais pas, une plage de X ou de Y, et vous trouvez des possibilités de faire du bondissement, j'ai oublié le nom du coup de la pratique en question, mais vous êtes sur des élastiques, vous sautez... Vous pouvez utiliser des petits scooters des mers, etc. Il y a incontestablement à la fois de la norme qui continue de circuler parce que ça ne peut pas être autre. Il y a incontestablement des lieux de collectif, de collectivisation, on peut dire comme ça, entre guillemets, de la norme. Et puis, il y a des lieux incontestablement aussi d'individualisation.
Bien, je crois que nous pouvons remercier Georges Vigarello pour sa conférence et ses réponses.